Aujourd'hui à l'émission Un temps pour parler, l'abbé Denis Veilleux reçoit le père Nathanaël Garrick de la communauté de l'Emmanuel, pasteur auprès des lycéens. Ce premier de deux entretiens s'intitule « Questions et défis des jeunes ».
C'est un visage que je découvre, personne que je n'ai jamais rencontré. Père Nathanaël Garrick, vous voulez vous présenter ?
Bonjour.
Bonjour. Alors,
pour me présenter, il pourrait y avoir beaucoup de choses à dire, mais en tout cas, simplement, je suis prêtre du diocèse de Paris, de la communauté de l'Emmanuel. J'ai été ordonné il y a à peu près 12 ans maintenant. J'ai eu plusieurs missions, beaucoup de missions auprès des jeunes. Je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler un peu. Et depuis septembre maintenant, là, j'ai commencé un doctorat de théologie. Et à côté de ça, je suis formateur pour des futurs prêtres, pour les séminaristes de la communauté de l'Emmanuel.
Très bien. Et si on parlait de votre famille, de votre milieu familial ?
Oui. Alors moi, je suis né dans une famille chrétienne, enfin très chrétienne, avec des parents même engagés dans la communauté de l'Emmanuel. Donc des laïcs qui ont pris vraiment le temps de mettre... Dieu au centre de leur vie, et moi j'ai grandi comme ça, avec des parents très croyants, voilà, qui étaient très engagés dans la communauté. Et puis j'ai deux sœurs également, ma petite sœur qui est handicapée et de naissance, et voilà, et puis ma grande sœur. Et en tout cas dans les événements marquants de ma jeunesse, de ma famille, en tout cas je peux dire il y a la découverte du handicap de ma sœur.
Quel est ce handicap?
C'est un handicap assez lourd, comme on pourrait dire. Voilà, elle est polyhandicapée, comme on dit, donc elle peut pas parler, elle peut pas marcher. Voilà, donc on a une communication très originale avec elle. C'est pas une communication par des mots, voilà, mais autrement, on arrive à communiquer quand même, notamment beaucoup par le regard, je pense. Et puis après, voilà, donc moi j'ai grandi dans ma famille. Après, mon père est décédé quand j'avais 15 ans. J'allais rentrer au lycée, voilà, quand il est décédé. Et donc aujourd'hui, j'ai toujours ma mère, ma petite sœur et puis ma grande sœur aussi.
Parlez-moi de vos amis d'enfance.
Mes amis d'enfance, il y en a surtout un dont je pourrais vous parler, qui était un ami de toujours. On a grandi ensemble, on était tout le temps en vacances ensemble. On habitait dans la même rue, on était toujours l'un chez l'autre, quoi. Voilà. On était ensemble, inséparables, hein, je dirais, de la moyenne section de maternelle jusqu'au bac. Et puis après, on a continué à beaucoup se voir. On s'est un peu perdu de vue pendant le séminaire et il m'a un peu relancé au moment de l'ordination quand je suis devenu prêtre. Et puis, il y a quelques années, je sais pas très bien ce qui s'est passé, il y a eu un problème dans sa famille, quelque chose qui a un peu disjoncté, je sais pas très bien, et il a coupé tous les ponts avec ses anciens amis. Donc, quand je cherche son nom sur Internet, je vois qu'il existe toujours, qu'il a un métier à Paris. Mais, en tout cas, il n'est plus désireux de relation, je pense, avec ses anciens camarades. Mais en tout cas, pour moi, ça reste des amitiés parfois, pour des raisons X ou Y, s'estompent, même s'il n'y a jamais eu de tension entre nous. Mais en tout cas, je vois que c'était un beau cadeau pour moi d'avoir une amitié comme celle-ci pendant si longtemps.
Parce qu'elle dure toujours.
Quelque part, en tout cas, moi, dans mon cœur, j'ai rien contre lui, et je suis, en tout cas, quand je pense à lui, c'est toujours avec joie et...
Oui, c'est un sourire tout de suite. Vous ne l'avez pas nommé, mais vous avez souri son nom. Oui, donc, c'est quelqu'un qui reste déterminant dans votre jeunesse.
Ah oui, c'est une amitié marquante, oui, c'est sûr.
Oui. Et l'amitié. Qu'est-ce que c'est? À cet âge.
Je sais pas ce que c'est que l'amitié, je sais ce que c'est qu'un ami. Il y a pas longtemps, j'ai une amie que je n'avais pas vue, que j'ai pas vue depuis très longtemps, peut-être 10 ans. Et en fait, elle a eu un deuil dans sa famille. Et elle m'a appelé parce qu'elle voulait que je puisse animer un temps de prière pour sa sœur qui avait perdu son bébé. Et en fait, elle a commencé en s'excusant de pas avoir pris de nouvelles, de m'appeler pour ça, etc. Et en fait, j'ai une émotion intérieure profonde. Je lui dis, écoute, arrête. Un ami, c'est justement ça. C'est quelqu'un qu'on n'a pas appelé depuis 10 ans parce qu'on a besoin de lui et on n'a pas à s'excuser d'avoir été pris par le rythme de la vie. On sait ce qui nous relie. Et donc, voilà, si tu as besoin de moi, je suis là, je suis disponible. Je pense que c'est ça, l'amitié.
Nathanaël Garrick, perdre son père à 15 ans.
Oui, c'est une épreuve. C'est quelque chose de marquant. C'est quelque chose qui a été, en bien des aspects, je pense, déterminant pour moi. D'abord parce que c'est une épreuve qui fait mûrir, parce que c'est la confrontation du deuil, jeune. Après, pour moi, ça a été aussi le moment d'une expérience spirituelle forte. Et en tout cas, si je suis prêtre aujourd'hui, je pense que pour une part, c'est lié à quelque chose que j'ai pu vivre au moment de ce deuil.
Quel était le lien avec votre père ?
Le lien d'un enfant qui aime son père et qui est aimé de lui, je pense. Une relation belle et simple. Moi, j'étais, je pense, très, très admiratif de mon père. Oui, je pense que j'étais très, très admiratif de mon père. Et il y a un souvenir que je peux partager qui m'a marqué longtemps après. C'est quand j'étais petit, peut-être une dizaine d'années, même pas, on était en famille à Paray-le-Monial, donc une session animée par la communauté de l'Emmanuel. Et je jouais dehors parce que j'avais pas l'âge pour... Enfin, c'est une session... Enfin, un adulte qui parlait, quoi. Et mon père était avec moi de loin pour me surveiller, quelque chose comme ça. Et j'ai un souvenir un peu étonnant. Je ne m'explique pas tout, mais j'ai le souvenir que j'ai. Je sais pas ce qui s'est passé, mais le souvenir que j'ai, c'est que quelqu'un dit au micro, les enfants, demandez à vos parents si ça leur ferait plaisir que vous soyez prêtre. Ouais. Je ne sais pas ce que la personne a dit. En tout cas, ça, c'est mon souvenir. Et j'ai le souvenir d'avoir juste regardé mon père et qu'il m'ait fait un grand oui de la tête. Et puis c'est tout, et on n'a jamais reparlé, j'avais pas du tout à ce moment-là, enfin j'ai jamais eu l'idée d'être prêtre à cet âge-là. Mais je vois que longtemps après, en tout cas au moment de rentrer au séminaire, plus de 10 ans après, ce souvenir m'est revenu. Et du coup, il était aussi une source de joie pour moi, de paix, de savoir que quelque part, en fait, mon père avait déjà acquiescé il y a fort longtemps à ce projet, qui n'en était pas encore un, mais que je commençais à réaliser.
C'est émouvant. Et le lien avec votre maman ?
Ma mère, que je vois pour le coup assez régulièrement, puisqu'on habite maintenant à Paris tous les deux. Je dirais la même chose, c'est un lien d'un... Je suis un fils aimé de sa mère et qui aime sa mère. On a une belle relation. On essaie de passer du temps ensemble, régulièrement, on échange. Voilà, et puis on parle de choses et d'autres. Enfin,
vous êtes l'aîné ou le cadet ?
Je suis le cadet. Mon autre sœur est la grande sœur.
Bien. Nous allons ouvrir un livre qui s'appelle « Vivre, pourquoi, pour qui ?» aux éditions Salvator, que vous avez écrit. Père Nathanaël Garrick, avec ce livre, vous vous adressez à qui ?
Alors, ma première cible, ce sont les lycéens et étudiants qui, avant d'entamer leurs études ou dans leurs années d'études, ont besoin de reprendre du temps pour réfléchir au sens de la vie qu'ils veulent construire. Il y a des âges de la vie avec des questions qui se posent à certains moments. Et pour avoir été aumônier longtemps de lycéens et surtout d'étudiants, j'ai vu combien cette question du sens, elle était prégnante, que ce soit en terminale, que ce soit en première, en France, quand on commence à choisir des options pour la suite, ou alors que ce soit à la fin des études, justement aussi quand on a travaillé, qu'on a fini les études, qu'on commence à rentrer dans le monde professionnel, et qu'on se dit, mais en fait, quel est le sens de ce que je fais? Je pourrais raconter l'une ou l'autre anecdote de quelque chose de très interpellante par cela. Mais je pense aussi, en tout cas, ce livre, finalement, j'ai eu plusieurs retours de parents qui l'ont lu un peu avant de leur donner à leur gamin et qui m'ont dit, non, mais en fait, c'était important pour moi aussi, ça m'a fait du bien. Alors, je l'ai pas écrit pour les adultes, déjà installés dans la vie, mais en tout cas, je vois que quelques-uns autour de moi m'ont dit que ça avait été une lecture profitable pour eux.
Justement, vous parlez du sens de ma vie, et il y a deux idées complémentaires que vous évoquez. Vous pouvez nous en parler ?
Il y a l'idée de cohérence, hein, et puis il y a l'idée de finalité. Oui. Donc la cohérence, c'est que si je fais une chose et son contraire, on va me dire que ça n'a pas de sens. Par exemple, je fais un régime, je me prive de dessert à midi, mais je prends un gros gâteau à 4 heures, on va me dire que ça n'a pas de sens. C'est pas cohérent, quoi. Et l'autre chose, c'est la finalité. C'est-à-dire que si je mets cette toutes mes actions au service de quelque chose qui est que je vais juger absurde, en fait, on va me dire que ça n'a pas de sens. Par exemple, un policier qui en fait travaillerait au service de voyous, on va dire mais ça n'a pas de sens. Tu es policier pour servir la justice, et là, ce que tu fais, c'est le contraire. Alors, on va dire en plus ça n'a pas de sens. Et donc, je trouve que la question du sens, elle nous travaille d'une part sur la cohérence, et on voit bien combien c'est difficile aujourd'hui où, par exemple, on a des aspirations fortes sur des cohérences de vie, par exemple, ne serait-ce que sur des questions écologiques. On veut être cohérent dans ce qu'on fait du point de vue écologique. On se rend compte que c'est pas toujours facile. Alors, parfois, on va être très à cheval sur la question des transports, mais sur la question des habits, on le sera pas. Bon, voilà. Donc, la question de la cohérence, elle est difficile. Et puis, la question de la finalité, évidemment, c'est mais en vue de quoi? En fait, si tu travailles, si tu es hyper cohérent, mais que tout ton travail est au service de quelque chose qui n'a pas d'intérêt, je prends l'exemple d'un esclave qui travaillerait pour mieux enrichir son maître. Par exemple, qui donnerait toute son énergie pour que son maître ait encore plus d'argent, et que lui, du coup, il serait toujours autant privé de liberté. Bon, on lui dirait, écoute, c'est bien, mais ça n'a pas de sens ce que tu fais. Donc, je trouve que c'est intéressant comment est-ce que la question du sens, elle va articuler en nous à la fois le besoin d'une cohérence, c'est-à-dire qu'on peut pas faire une chose et son contraire, on sent bien qu'on aspire tous à ça. Puis la question de la finalité consiste à dire, mais ce que tu fais, tu le fais en vue de quoi?
Et comment les jeunes réagissent-ils?
Alors, sur la question de la cohérence, ils sont hyper sensibles. D'ailleurs, je trouve, moi, j'ai eu beaucoup de groupes de lycéens, donc je les ai parlé un peu entre eux, et ils aimaient bien se reprendre l'un l'autre quand ils trouvaient que quelqu'un n'était pas cohérent. Je me souviens sur les questions de conversion écologique, une jeune fille qui se disait, bon, voilà, moi, je suis vegan, et puis les autres, ils disaient, oui, mais t'as encore des chaussures en cuir, nanana, ça va pas du tout, ce que tu fais, bon, voilà. Donc, ça, c'est difficile. Puis, évidemment, la question de la finalité, c'est quand même la première question. C'est en fait, quelle est la finalité de ma vie? Et là-dessus, c'est sûr que il y a un âge où on a envie d'avoir une réponse. On peut pas se satisfaire de dire, bon, moi, je suis là, c'est bien. Non, en fait, et je trouve que, j'ai pas assez de recul, mais en tout cas, je trouve que les jeunes, je sais pas si les jeunes à qui j'ai pu m'adresser, c'était spécifique dans l'histoire ou si ça a toujours été comme ça, mais en tout cas, j'ai trouvé des gens qui, en fait, étaient déjà très mûrs dans leur désir de pouvoir prendre en main leur vie.
À la page 25 de votre livre, Vivre pourquoi pour qui, vous écrivez « Le futur convoque notre raison. Aussi, parfois, préfère-t-on le congédier. » J'ai bien aimé cette phrase. Vous pouvez commenter?
Oui, mais c'est que quand on... Bon, enfin, la question écologique, elle est un très bon exemple de ça. C'est que quand on a besoin d'anticiper, de préparer, de raisonner ce vers quoi on va, eh bien, évidemment, on peut pas faire tout au feeling, hein, comme on dirait. Donc, on a besoin d'avoir des temps de réflexion pour mieux anticiper et préparer notre futur. On peut pas. Il y a des choses qui s'improvisent dans la vie, et il y a des choses qui se préparent. Alors, dans le futur, il y a des choses qu'on peut improviser au présent, et le futur, il se prépare.
Père Nathanaël Garrick, ne pas s'engager, 3 petits points, une fuite en avant poussée par la peur. Vous avez senti ça chez les jeunes?
Alors, la peur, oui, mais ça, je pense, presque chez tout homme. Mais le fait de ne pas vouloir s'engager, parce que, oui, il y a quelque chose qui peut faire peur, je pense notamment la peur de l'échec. Beaucoup, soit parce qu'il y a une pression familiale, une pression sociale, ou une pression qui se met eux-mêmes, je pense que certains, effectivement, ont peur de l'échec. Alors en fait, quand on s'engage, on prend toujours un risque, le risque de ne pas réussir. Quand on est dans son canapé, assis toute la journée, qu'on dit « je ne veux rien, je n'ai pas de désir, je ne vais rien essayer », on est certain de ne pas connaître l'échec dans sa vie, puisqu'on n'aura rien essayé. Alors effectivement, quand on s'engage, eh bien, il peut toujours y avoir cette espèce de peur, mais c'est vrai aussi dans la relation amoureuse, hein, parce que être en relation avec quelqu'un, même se marier, c'est toujours prendre un, enfin c'est s'engager, c'est prendre une part de risque, parce que on ne peut jamais être sûr à 100% que la relation, elle va se maintenir, que ça sera toujours aussi beau, aussi simple. Enfin voilà, il y a toujours une part, comment dire, il y a toujours une part d'incertain dans le futur. Le présent, on le maîtrise, le passé, c'est réglé, mais dans le futur, il y a une part qui nous échappe. Donc effectivement, on peut avoir tendance à ne pas vouloir vivre pleinement notre vie en essayant de fuir cette question-là.
Est-ce que vous pourriez étayer un peu les peurs des jeunes que vous rencontrez?
Alors, les peurs des jeunes, je réfléchis. Alors, on va prendre, elles sont dans différents ordres. J'aurais envie de parler de quelque chose qui est plus de l'angoisse, encore de la réaction un peu anxiogène, on va dire, à la crise écologique. Bah oui, c'est fait, on a commencé l'émission depuis quelques minutes. Je sais pas de combien de fois déjà j'ai sorti ce mot, mais c'est vrai que, alors, vous avez déjà chez les enfants qui n'ont pas du tout le recul, donc on leur dit des choses et ils ont l'impression que demain on va tous mourir, quoi. Je pense que chez les plus jeunes, il y a aussi une espèce de peur de voir leur monde s'écrouler, et notamment, effectivement, de voir un monde invivable. Et quand on a un certain âge, on se dit, bon, bah, de toute façon, c'est pas grave, après moi le déluge. Mais quand on a la vie devant soi, quand on vous dit, bah, t'as 20 ans, t'as la vie devant toi, en revanche, peut-être que dans 20 ans, ta planète, elle sera plus vivable, c'est sûr que c'est un peu différent, quoi. Donc, je pense qu'il y a cette peur-là qui est, en fait, quand même déjà assez présente. Je dirais aussi la peur d'une vie qui n'aura servi à rien, d'être passé à côté de sa vie ou d'avoir raté sa vie, comme on dit parfois aussi. Peut-être la peur d'avoir été insignifiant. Et donc, ce qui dit, en fait, le besoin que notre vie, elle sert, qu'elle soit pleine, qu'elle ait du sens, hein, c'est toujours cette même question-là. Mais du coup, oui, la peur de passer à côté. Peur de passer à côté. Voilà, il y en aurait d'autres, hein, les peurs chez les jeunes. Je pense, je dis juste, il y a une chose qui me, je partage, ça m'avait frappé, même si on voit, c'est pas trop le sujet de mon bouquin, mais quand on avait parlé de sexualité avec des lycéens, ses parents en groupe garçon-fille, et on leur avait dit, on avait voyé une espèce de nuage de mots en disant, bah, choisissez le mot que ça évoque pour vous. Eh bien, chez les filles, le premier mot qui revenait, c'était la peur. À propos de la sexualité. Pas du tout le plaisir, l'attente, la joie. Enfin, ce qu'on aurait pu imaginer, nous, comme on projette ce que peut être la tête d'un adolescent. Eh bien, en tout cas, la tête des adolescentes, au moins pour elles, était plutôt, c'est des têtes plutôt pleines de peur.
Et comment elles se traduisent, ces peurs, dans ce domaine, pour elles? Peur de se tromper?
Oui, peut-être. Alors, il y a différentes choses. Il y a la peur de ne pas avoir une vraie relation d'amour. Ça, c'est sûr. Et du coup, c'est ce qu'on disait juste avant. Hein, c'est que quand on a peur de ne pas être aimé par quelqu'un toute sa vie, le plus simple, c'est de ne pas essayer. Alors, j'ai eu des jeunes qui m'ont théorisé les relations courtes parce que il valait mieux être aimé par quelqu'un pendant 3 ans ou 5 ans. Mais multiplier les relations dans le temps plutôt que de n'être aimé par personne. Donc là, je trouve qu'il y a une vraie peur qui va se manifester par une difficulté de l'engagement, justement. C'était intéressant, une rencontre où moi je leur ai dit, mais attendez, c'était avec des jeunes filles, et je leur ai dit, laquelle d'entre vous n'a pas envie d'être aimé par la même personne toute sa vie? Et là, il y a une espèce de silence gêné, elles ont regardé leurs pieds, et en fait, elles n'osaient plus croire à leur désir. Donc ça, c'était quand même assez marquant. Après, sur la question de la peur liée à la sexualité, je pense qu'il y a aussi toute une question liée à la pornographie et au fait que ce qui est visionné dans les films pornographiques devient une espèce de norme. Or, en fait, certains y aspirent, mais peut-être, tous non. Et donc, c'est quelque chose qui fait peur, ça angoisse. Et du coup, je pense que, en tout cas, ça se manifeste d'abord dans les difficultés de relations amoureuses au lycée, où en fait, c'est pas du tout vécu de manière paisible. Comme la norme, c'est de coucher avec quelqu'un dès qu'on s'entend bien avec lui, si je puis dire. Enfin, voilà, dès qu'on est en couple avec quelqu'un, et la norme veut qu'on couche ensemble. Bah, du coup, ça suscite des relations très tendues, beaucoup d'angoisse, chez ces jeunes.
Là, vous avez parlé des adolescentes et les garçons.
J'ai moins senti parce qu'à mon avis, elles se manifestent moins. Parce que je pense que les garçons que j'avais, ceux que j'ai eu pendant des années là comme aumônier de lycée, c'est vrai qu'ils avaient moins cette facilité à verbaliser leurs craintes. Je peux juste partager un qui m'avait beaucoup marqué, qui m'a recontacté d'ailleurs cette année là. Comme quoi, ce qu'on a vécu dans l'aumônerie, ça l'a marqué. Et en fait, il disait, mais moi, je n'ai pas envie de me lancer dans des études. En fait, j'ai peur d'être malheureux. D'ailleurs, vous avez tous l'air malheureux au lycée. Et il avait dit, le seul qui a l'air un peu heureux dans ce lycée-là, c'est l'aumônier, c'est le père Nathanaël. Donc c'était marrant parce que j'apparaissais pour lui comme le seul adulte heureux de son entourage. Et du coup, en tout cas, lui, ça lui faisait peur, pas que je sois heureux, mais de voir ses parents, j'imagine, ou en tout cas les enseignants, les adultes autour de lui, qui avaient l'air malheureux dans leur choix de vie. Voilà, ça, c'est une phrase interpellante. Il n'y a que l'aumônier qui a l'air heureux dans le lycée.
Père Nathanaël Garrick, on change de chapitre avec vous dans votre livre. Vivre pour une passion, est-ce que c'est être dévoré ou prendre son envol?
Ouais, c'est un peu des deux, parce que la passion, à la fois, elle me donne de l'énergie, elle me donne de l'élan. On voit bien, quelqu'un qui est passionné, il va mettre le réveil plus tôt, il va dégager du temps pour sa passion. Que soit le sport, l'exploit, la randonnée, la lecture, enfin voilà, on sent que quand quelqu'un est passionné, il va dégager du temps, il va mettre beaucoup d'énergie dans sa passion. Et donc là, il y a quelque chose de très beau et de très fort, de très noble, même dans la passion. Voilà. Après, c'est toujours un peu la question, c'est de savoir cette passion, elle va me conduire où? Et en fait. On peut être un peu dévoré, comme vous le disiez, parce que, en fait, une passion est souvent, je dirais, encore un peu auto-centrée. C'est-à-dire que celui qui est passionné par quelque chose, en fait, il veut vivre sa passion, que ça plaise ou non aux autres, que ça leur fasse du bien, c'est pas tellement sa question, en fait. Lui, ce qu'il veut, c'est pouvoir vivre son truc. Et du coup, je pense qu'il y a des choses de la vie qui peuvent pas être vécues par quelqu'un qui est que dans une passion. Notamment parce qu'il y a d'autres types de choix de vie qui vont impliquer des renoncements. Voilà. Mais je pense, par exemple, il y a pas longtemps, je faisais un petit peu d'escalade, et il y avait devant moi un couple qui venait de Paris, ils avaient traversé la France, là, pour aller faire de l'escalade dans les belles calanques du sud de la France. Et on avait un peu parlé, ils avaient pas d'enfants, et ils faisaient de l'escalade dès qu'ils pouvaient, ils prenaient 3 jours. Bon. C'est sûr que ce couple-là, le jour où ils auront un enfant, en fait, ils pourront plus faire ça. Donc, je pense que dans leur cœur, à ce moment-là, il y avait un espèce de conflit intérieur. Peut-être le désir d'avoir un enfant et puis le désir de vivre leur passion pour l'escalade. Et consciemment ou non, en tout cas à ce moment-là, ce qui était premier dans leur vie, dans leur emploi du temps, c'est clair, c'était l'escalade.
Est-ce qu'ils ont évoqué ce que vous dites là?
Non, c'était juste, on a juste échangé, parlé rapidement.
C'est vous qui avez réfléchi par rapport à leur passion.
En tout cas, il y a un choix qui est clair, parce que moi je me dis, comment est-ce qu'un couple qui habite Paris peut faire 3 heures de train le vendredi soir plus 3 le dimanche? Prendre un week-end, bon, c'est sûr, faut pas avoir d'enfant. Ça, c'est sûr. Après, quand on voit tout le matériel qu'ils avaient acheté, la fréquence à laquelle ils venaient, on sent que c'est quelque chose qui est fondamental pour eux, qui construit leur relation, leur équilibre, etc. Forcément, consciemment ou non, je sais pas du tout, mais c'est sûr, c'est que c'était pas possible pour eux et d'avoir un enfant et de continuer à vivre leur passion.
À moins de transmettre un jour la passion aux enfants.
Plus tard, j'espère.
Plus tard.
Un jour.
Oui.
Je leur souhaite.
Alors, la passion aussi prend son envol ou permet à quelqu'un de prendre un envol?
Oui, je pense que, on voit bien, quand on est, souvent les adolescents aussi sont des gens qui ont, ils vont se passionner pour des choses, ça va leur donner de l'énergie. Vous avez les adolescents qui sont un peu, comment je vais dire, amorphes, fermés sur eux-mêmes, dans leur canapé, repliés sur eux. Et généralement, les parents sont un peu désespérés. Ils se disent, j'aimerais bien, mais mon père, est-ce que vous pouvez un peu le secouer, la réveiller, le fait lui faire quelque chose? Les adolescents passionnés, ils sont pas comme ça. Au moins, ils se lèvent, ils vont faire du sport, ils prennent leur bus, font 1 heure de bus pour faire leur entraînement de ceci ou de cela. Donc, je trouve qu'il y a, une révélation de l'énergie qui est là, dans la passion. Quand on est adulte, il y a quelque chose d'un peu semblable aussi, je veux dire, par exemple, en dehors, certains je pense que certains investissent une passion, par exemple, en dehors de leur milieu professionnel. Ils travaillent, c'est un job alimentaire, comme on dit, ou enfin quelque chose qui les passionne pas. Et donc, il va y avoir une passion à côté pour leur donner un petit peu le goût de supporter le travail, si je puis dire. Je dis pas que c'est un accomplissement complet de vivre comme ça, mais au moins, ça, certains, ça leur, ben voilà, ça les aide à trouver leur équilibre. On va dire ça comme ça.
Très bien. Vous évoquez souvent Blaise Pascal dans votre livre. J'aimerais que vous me donniez quelques phrases lumineuses. Parce qu'il y en a.
Bon, Pascal, c'est un immense, un homme immense, immense. Je crois que la, si j'en avais une à dire, je crois que c'est le silence de ces espaces infinis m'effraie. Je crois pas que la citation soit dans le livre, hein, pas de mémoire en tout cas. Et Pascal qui réalise qu'il est tout petit, vous voyez, c'est le moment où l'astronomie prend son essor et tout d'un coup on prend conscience qu'on n'est qu'une poussière quelque part dans l'univers et qu'on est entouré d'espace infini et la petitesse que nous sommes tout à coup nous fait prendre conscience que nous sommes quasiment rien. Il y a un détail entre le rien et nous et ce détail fait tout. Et Pascal en fait n'a pas peur d'aller chercher justement ces dimensions un peu angoissantes de la vie. Je pense que nous fuyons habituellement cette dimension angoissante et Pascal est celui qui a le courage de regarder de près. S'il y avait une autre citation, alors ce serait autour du divertissement, la manière dont il parle de la chasse comme un divertissement. Je n'ai plus les mots exacts de Pascal, mais son idée c'est de dire que quand le roi chasse, son but n'est pas de rapporter un gibier, mais c'est de chasser. Et donc, il s'intéresse à la chasse pour la chasse, parce que c'est une manière d'oublier, au fond, que tout roi qu'il est, un jour, il sera mortel. Enfin, il est mortel, et donc, un jour, tout cela terminera. C'est une manière d'analyser la vie de l'homme, dans ce qu'on appelle le divertissement pascalien, c'est-à-dire l'analyse de toutes ces choses futiles hein, qui font nos vies, dont on n'arrive pas à se détacher, parce qu'en fait, elles nous permettent de fuir précisément ces grandes questions. Et je trouve que la force de Pascal, c'est avec beaucoup de subtilité de savoir le révéler, montrer que c'est la misère de l'homme, et en même temps ne pas être un espèce de manichéen en disant « c'est mal de vous divertir, faites autre chose ». Je pense qu'il est plus fin que ça, Pascal, et en même temps, parce qu'il sait bien que si l'homme vit comme ça, c'est que pour une part, il en a besoin aussi. Et donc, faut pas se mentir sur nos divertissements, mais il faudrait pas, voilà, une citation de Pascal qui fait l'ange fait la bête. Il faudrait pas se croire au-dessus de la condition humaine, comme des anges capables de se débarrasser impunément de tous ces subterfuges que l'homme a inventés pour vivre avec son angoisse existentielle.
Père Nathanaël Garrick, vivre pourquoi pour qui aux éditions Salvator. Merci.
Merci à vous.
Ne manquez pas la semaine prochaine la suite de cette rencontre avec le père Nathanaël Garrick, qui est l'auteur du livre intitulé « Vivre pourquoi ? Vivre pour qui ?» paru aux éditions Salvator. C'était « Un temps pour parler » avec l'abbé Denis Veilleux, à la recherche d'Annie Benz.